Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il fait bien toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Ce sourd muet, qui est-ce? C'est à la fois le monde actuel, le clergé et nous-mêmes. Le monde actuel, à qui Dieu offre le spectacle de l'univers, qui laisse les savants dans l'étonnement, et pourtant il ne remonte pas des créatures au Créateur, il nie l'existence de Dieu. Le clergé chargé de transmettre le dépôt de la foi, d'enseigner les nations, Dieu lui a envoyé la Vierge Marie, l'étoile du matin, pour lui montrer la route en ces temps troublés et lui donner les remèdes pour sortir de cette tempête. Ils sont restés sourds à l'appel de Notre-Dame. Sœur Lucie, dans une lettre à Monseigneur da Silva en 1931, rapporte cette parole de Notre-Dame. « Fais savoir à mes ministres, étant donné qu'ils suivent l'exemple du roi de France en retardant l'exécution de ma demande, qu'ils le suivront dans le malheur. » Ce sourd-muet, c'est aussi nous-mêmes. Nous avons entendu les enseignements de Notre-Dame de Fatima sur la récitation quotidienne du chapelet, sur la dévotion des cinq premiers samedis du mois. Où en est notre sanctification? N'attendons pas, dit Sœur Lucie en 1957, que vienne de Rome un appel à la pénitence de la part du Saint-Père pour le monde entier. N'attendons pas non plus qu'il vienne de nos évêques, ni des congrégations religieuses. Non, notre Seigneur a déjà utilisé bien souvent ses moyens et le monde n'en a pas fait cas. C'est pourquoi, maintenant, il faut que chacun commence lui-même sa propre réforme spirituelle. Chacun doit non seulement sauver son âme, mais aussi toutes les âmes que Dieu a placées sur son chemin. En 1954, Sœur Lucie précisait, dans une lettre à une amie, que notre sanctification consiste à vivre dans une dépendance totale de la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'accomplissement exact de nos devoirs de chaque jour et de chaque instant. Voyons d'abord qu'est-ce que l'instant présent. On peut dire que l'instant présent est le point de rencontre de l'âme avec Dieu. Bien souvent, c'est une action banale, dont la seule valeur sera d'être la volonté de Dieu, comme le sont toutes les tâches domestiques quotidiennes. Le père Garrigou Lagrange fait remarquer que le moment présent contient non seulement le devoir à accomplir, signe de la volonté de Dieu, mais aussi une grâce pour être fidèle à ce devoir. Dieu nous attend donc à ce point précis, si nous le cherchons. Si nous ne le cherchons pas, nous le manquerons. Un exemple tout simple, qui se renouvelle tous les jours, le lever matinal. La sonnerie du réveil, c'est l'appel de Dieu pour remplir une nouvelle journée. Que d'âmes meurent pendant leur sommeil. On a eu encore des exemples récents, tout proches. Si Dieu nous donne la vie, sachons l'accueillir, l'offrir et dire notre fiat en nous levant promptement. Dieu nous en donne la force. Notre existence tout entière n'est qu'une suite d'instants présents qui nous donnent Dieu. Cet instant présent comporte des devoirs envers Dieu, comme par exemple l'heure de la prière du matin, des devoirs envers le prochain, comme par exemple de préparer le repas, des devoirs envers nous-mêmes, comme l'examen de conscience, la préparation à la confession, un travail à faire. Nous rencontrons Dieu dans ces divers instants, dans la mesure où nous acceptons à plusieurs niveaux le sacrifice qu'il nous demande. C'est ce que nous allons voir dans la sanctification du moment présent. nous avons un exemple parfait en la personne de la Vierge Marie. Elle est comme une incarnation de l'instant présent. Toute sa vie n'a été qu'une suite d'instants bien humbles parfois, comme la vie à Nazareth, mais vécus avec le maximum d'amour. Chaque instant a donc été l'occasion d'une augmentation de grâce jusqu'à son élévation au ciel. Elle n'a pas accompli d'actions extraordinaires, ni fait des miracles, ni eu des extases, mais elle a fait chaque chose d'une manière très parfaite, avec un grand amour, une totale adhésion à Dieu, si bien que Dieu a pu faire en elle de grandes choses, comme elle le dit dans le Magnificat, parce qu'il n'a trouvé en elle aucun obstacle. Il en a fait la reine du ciel, dépassant en sainteté les saints et les anges. Nous devons donc, à l'exemple de la Vierge Marie, faire nos actions ordinaires d'une manière parfaite. Elles deviendront une clé d'or qui nous ouvrira les portes du ciel. Voyons en quoi consiste cette perfection. Il faut premièrement faire ce que Dieu veut. Cela exclut non seulement de suivre nos caprices pour faire des actions mauvaises, mais aussi de suivre notre volonté propre pour faire des actions qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais qui vont contre la volonté de Dieu. Par exemple, on va sur Internet pour une raison professionnelle ou un besoin pour rechercher des renseignements techniques, et de fil en aiguille, on fait un petit voyage sur différents sites qui aiguisent notre curiosité. Rien de mauvais dans ces sites. Mais le temps passe et nous avons oublié de faire telle tâche ménagère, de consacrer du temps aux enfants ou de mettre à jour notre courrier. Tout instant présent demande à un premier niveau de se sacrifier pour ne pas pécher. Si nous le faisons, nous adhérons à la volonté de Dieu. Certes, le contact n'est pas parfait, c'est le minimum requis. Mais le courant passe, la grâce sera donnée. Deuxièmement, il faut bien faire ce que Dieu veut. Dieu veut que toutes nos actions, si modestes soient-elles, soient méritoires de la vie éternelle. Ne l'a-t-il pas promise, cette vie éternelle, à celui qui donnerait un verre d'eau en son nom ? Toute petite chose. Cela requiert d'être en état de grâce. Sans la grâce sanctifiante, nos actions n'ont aucune valeur surnaturelle. Elles sont nulles pour le ciel. Alors, que de gâchis pour les âmes qui restent longtemps en état de péché mortel. Tous leurs efforts, leurs peines, leurs souffrances sont nuls pour le ciel. D'où la nécessité de se confesser régulièrement. Nos actions doivent ensuite être parfaites, non seulement dans le résultat produit, mais dans l'intention qui les conduit. Le bon Dieu a bien fait toutes choses, nous sommes créés à son image, nous devons donc bien faire nos œuvres. Que ce soit un devoir pour un écolier ou un étudiant, un rapport écrit pour un père de famille, une conférence, un travail manuel, ou alors une tâche domestique, bâcler un travail ne plaît pas à Dieu. Il plaît encore moins à Dieu qu'il ne nous plaît pas nous-mêmes. C'est un désordre que nous ne supportons pas nous-mêmes quand nous en sommes les victimes. Par exemple, un plat mal cuit, mal présenté, un habit mal lavé, mal repassé, une maison mal conçue. Le travail demandé peut être parfait. Mais l'intention n'est pas de plaire uniquement à Dieu, mais d'en tirer vanité. Par exemple, à l'occasion d'une fête, vous avez préparé un repas excellent, la décoration de table était faite avec goût, vous avez prévu un service de table performant, Mais tout cela pour que vos invités puissent vous louer ensuite, puissent dire « quelle maîtresse de maison, un véritable cordon bleu », etc. Tout cela ne vaut rien pour Dieu, car vous avez préféré votre propre gloire à la sienne, comme le pharisien dans l'Évangile. Vous avez déjà eu votre récompense, donc vous n'en aurez plus besoin au ciel. Tout instant présent demande donc à un deuxième niveau de savoir se sacrifier plutôt que d'être imparfait dans nos œuvres. Ne pas bâcler nos devoirs d'État est à ce prix. Il faut faire ensuite ce que Dieu veut avec la ferveur de la charité. On peut en effet bien faire nos différents devoirs d'État avec l'intention de plaire uniquement à Dieu, mais le faire sans ferveur, par devoir, plus par crainte de déplaire à Dieu que par amour. Une telle attitude est une pente glissante vers la routine. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et pour donner avec joie, il faut accepter de se donner tout entière à Dieu. C'est-à-dire que nos devoirs d'État doivent être faits en se sacrifiant jusqu'à la générosité de l'amour. Tel est, dit sœur Lucie de Fatima, l'idéal de toute âme qui aspire à avoir un jour le bonheur de voir Dieu et de jouir de sa présence dans le ciel. C'est notre idéal. Cet amour, lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu, peut des fois nous laisser dans l'illusion. Et pour démolir cette illusion, eh bien, c'est à l'amour du prochain que nous pourrons voir vraiment si nous faisons les choses par amour de Dieu. Donc, nos rapports avec le prochain, ils sont fréquents, dans la famille, le voisinage, à l'école, au travail. Donc, dans ces contacts, nous pourrons, eh bien, pratiquer cette grâce de l'instant présent, et c'est là que nous verrons si nous en sommes dans l'illusion ou pas. Parce que cet amour du prochain demande une attention particulière, un oubli de soi, pour prendre conscience de son existence réelle, individuelle, sans projeter sur lui un reflet de notre personnalité. Ce prochain, il faut le regarder comme le regarde le bon samaritain, et non pas se contenter de voir comme ont fait le prêtre et le lévite qui sont passés à côté de l'homme qui gisait blessé au bord du chemin. Le bon samaritain, lui, regarde, il s'arrête d'abord, ensuite il regarde, et il cherche quels sont les besoins, les désirs, les difficultés, les aspirations, les souffrances de ce prochain. Puis ensuite, il va pourvoir à ses besoins selon ses possibilités. C'est exigeant, mais c'est à ce prix que nous rencontrerons Dieu dans notre prochain. Pour bien exercer cette charité envers Dieu et envers le prochain, nous avons besoin des deux autres vertus théologales, l'espérance et la foi. En effet, lorsque se présentent des événements, nous avons du mal à être bien dans le présent. Nous sommes soit dans le passé, soit dans l'avenir, surtout quand on est enfant, quand on est jeune. Voilà. Nous sommes inquiets d'un passé parfois traumatisant. Si on a eu de grandes maladies, des grandes souffrances passées, ou dans notre jeunesse, des difficultés, voilà, ça laisse des traces et ça peut perturber notre vie présente. Ou alors, on peut être inquiet d'un avenir plein d'incertitudes et d'angoisses. La vertu d'espérance va apporter la solution en abandonnant le passé et le futur à la seule miséricorde de Dieu. Le passé, c'est passé, on ne peut plus rien. L'avenir, on ne sait pas ce qu'il sera, donc on ne peut rien non plus. Donc la vertu d'espérance va nous fixer dans le présent, Elle va nous faire nous appuyer sur la seule miséricorde de Dieu. Et donc, ça va nous apporter la sérénité. On pourra dire avec le psalmiste, « En vous, Seigneur, j'ai mis mon espérance, je ne serai jamais déçu. » Notre Seigneur l'a enseigné dans l'Évangile à plusieurs reprises. « Chaque jour suffit à sa peine, ne vous souciez pas du lendemain. » L'instant présent est parfois déroutant. Nous avons du mal à reconnaître la volonté du bon Dieu. Donc nous avons besoin de la lumière de la vertu de foi pour reconnaître Dieu dans cet événement et nous mettre en contact avec lui. Un petit peu comme Sainte Marie-Madeleine, elle cherchait Jésus dans le tombeau et puis elle rencontre le jardinier et là, elle a reconnu Jésus. Qui va nous aider à sanctifier l'instant présent de notre vie? La Vierge Marie. Nous avons vu qu'elle était comme une incarnation de l'instant présent. Et en plus, elle est notre mère. Elle est la médiatrice de toutes les grâces, et spécialement de toutes ces grâces que le bon Dieu veut nous donner à chaque instant présent. Donc, à chaque instant présent, lorsqu'on se met en contact avec Dieu, la Vierge Marie est là pour nous donner la grâce que le bon Dieu a attachée à cet instant présent. Alors il faut lui demander ces grâces, par la récitation quotidienne du chapelet notamment. Nous avons vu que l'accomplissement exact de nos devoirs de chaque jour et de chaque instant comporte un véritable esprit de pénitence à trois niveaux. Cet esprit de pénitence accepté et offert en union avec le cœur immaculé de Marie répond pleinement à la dévotion envers ce cœur immaculé. En agissant ainsi, eh bien, nous allons avoir l'esprit de réparation. Nous allons nous sanctifier et nous allons travailler à la paix du monde. Le triomphe du cœur immaculé de Marie nous était promis à Fatima, et il doit d'abord commencer dans nos cœurs, dans le cœur de nos familles, de nos institutions, et ensuite dans nos nations. Donc pratiquons cette dévotion envers la Très Sainte Vierge Marie en accomplissant fidèlement, exactement nos devoirs de l'instant présent. Alors, le cœur immaculé de Marie sera à chacun de ces instants notre refuge est le chemin pour nous conduire jusqu'à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.